être mise à mal.
Oh, mais c'est un nouveau concept, c'est gratuit.
L'ambiguïté des amitiés hommes-femmes. Jamais de la vie je me persuadais. Tais-toi, imagine, tu, bah, c'est comme un
putain. T'as allaité quelqu'un, toi.
Tu sais pas,
un public.
Et en plus, quoi? Pute public.
Ma mec, si tu
veux. Parce que j'ai dit.
Tu m'avais dit pute public.
J'ai dit pour le public.
Pour les applaudisseurs. Si tu veux percer, c'est obligé.
Si tu veux percer, il faut se percer.
Non, par contre, un petit tatouage applaudisseur sur ton 11e doigt.
Oh non.
Ah, quand même. C'est difficile de ne pas faire.
Non, mais en fait, c'est ma spécialité, c'est que je fais des blagues et des jeux de mots sans m'en rendre compte. C'est naturel.
Et malgré ça, il n'y a quand même pas d'ambiguïté, c'est quand même fou.
C'est ça.
Bonjour les applaudisseurs, bienvenue dans cet épisode sur l'ambiguïté des amitiés hommes-femmes, qui est un nouveau concept, qui est le concept de remise à mal, où en fait on discute de sujets qui ont déjà été éprouvés en saison 1, mais en fait le but de mise à mal c'est de montrer que c'est en discutant que les choses avancent, et qu'en fait pour discuter il faut oser rediscuter aussi de sujets qu'on a déjà éprouvés. Et donc aujourd'hui le cliché qu'on va mettre à mal, mais c'était pas tout à fait le cliché qu'on avait mis à mal en saison 1, je vous le propose et vous me direz si vous avez envie de compléter, c'est que les hommes hétéros ne peuvent pas avoir de relations amicales sans... Faut pas que je regarde Alba,
C'est un félin le mec, on est avec un félin qui a... il a soit un truc dans la gorge, une boule de poils, soit il...
Le cliché que j'essaie de mettre à mal, c'est que les hommes hétéros ne peuvent pas avoir des relations amicales sans ambiguïté avec des femmes. Et avant de vous donner la parole, parce qu'on ne sait pas encore qui vous êtes, je vais vous présenter si ça vous va. C'est un petit concept que j'ai amené et je vous le propose. Vous me direz si vous êtes heureux. Elle est géniale. Et après cette phrase, elle me doit 50 centimes. Sponsor de mise à mal depuis le tout premier épisode, elle est avant tout une foodie dont l'enthousiasme culinaire me donne faim à chaque story. C'est la seule fille qui peut m'écrire à 1h du mat pour me demander si je suis toujours chaud pour aller dans un club échangiste sans que je trouve ça ambigu. C'est Alba.
C'est génial.
Bonsoir les applaudisseurs.
Oh waouh. Alba, est-ce que tu peux dire quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre?
Mac, j'envoie des messages à 1h du matin pour savoir si mes amis sont chauds pour aller en club échangiste.
Tu l'as envoyé à tous tes amis, pas qu'à moi?
Non, je pense que t'es le seul quand même qui a ce privilège pour l'instant.
Merci. Du coup, ma réponse était oui, reste oui.
Mais moi, je reste toujours intéressée.
On se parle après. Il joue la flûte song comme personne et dunk tous les panneaux publicitaires une fois qu'il a quelques verres dans le nez. C'est surtout un des mecs dont les messages vocaux m'a donné envie de lancer mise à mal. Tu peux le tester sur le bras de fer, mais seulement au bras gauche. Par contre, là où tu pourras jamais le battre, c'est son déhanché qu'il a directement appris auprès de Beyoncé et qui me donne envie de le ken à chaque fois qu'on va danser. C'est Auriel.
Ouais, bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux dire quelque chose de toi dont on ne s'attend pas la première fois qu'on te rencontre?
Eh bien, tu m'as décrit assez physiquement comme personne, mais en ce moment, je suis quelqu'un d'hyper fragile physiquement. J'ai l'impression d'avoir 85 ans alors que j'en ai 26.
Bah écoute, il faut qu'on sorte. Hein. Je pense que c'est qu'on sort plus aussi.
Ah oui, s'il te plaît, sors-moi.
Non, je parlais à Auriel. J'étais vraiment tournée vers Auriel et elle me parle dans le dos. Ah oui, s'il te plaît. Très bien, bah les amis, je suis très content de vous recevoir pour ce remise à mal. Ça faisait longtemps que je voulais vous avoir ensemble, dans le podcast, pour vous lancer sur l'épisode. Est-ce que vous avez un cliché complémentaire à ajouter à celui que j'ai énoncé?
Que ce soit homme ou femme, je dirais que peu importe les deux, il y a forcément dans une amitié homme-femme, à un moment donné, une certaine ambiguïté. Et s'il n'y a pas cette ambiguïté, je pense qu'il y a des raisons derrière, et je pense qu'on pourra en parler après. Mais pour moi, il y a forcément une ambiguïté. Ouais.
Ok. Donc toi, tu penses qu'il y a forcément une ambiguïté, ouais. Auriel? Et Alba, toi, tu penses que...
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Oh, mais non, pas du tout.
Ah, mais pas du tout.
Est-ce que c'est un match... C'était pas fait exprès, en plus. Je ne savais pas que votre avis était aussi tranché. Et moi, je suis neutre.
Mais justement, en fait, moi, je voudrais rebondir sur la question des avis tranchés, en fait.
Oh, vas-y, sois méta.
Parce que je rentre déjà trop dans le sujet. Mais en fait, justement, ce qui je trouve assez intéressant sur ce sujet, c'est que tout le monde a un avis très tranché. C'est-à-dire que moi, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans plusieurs soirées ou dans plusieurs conversations. Et je suis toujours surprise que les gens, ils sont là, ah bah non, c'est impossible d'avoir une amitié homme-femme. Et en fait, ça se repose seulement sur leur expérience individuelle. Et pourtant, ils l'amènent comme si c'était une vérité absolue. Parce que même moi, en fait, là, au début, je disais, ah bah non, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais je le dis ça pour rire, en fait. Je pars du principe que ce n'est pas une vérité absolue. Et que j'ai bien conscience qu'en fait, pour des personnes, c'est impossible d'avoir une amitié homme-femme sans ambiguïté. Mais je continue d'observer. Et c'était notamment le cas pour le premier podcast que tu avais enregistré sur ce sujet, au bout, je crois, de la troisième minute d'enregistrement. Je crois que c'était Théo, déjà, qui l'annonçait comme une vérité absolue, et alors qu'en fait, c'était juste basé sur son vécu à lui, en fait.
Ouais, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, j'ai totalement changé d'avis depuis le premier épisode, il y a 2 ans et demi. Moi, justement, je pensais à l'époque du premier épisode que c'était impossible d'avoir une amitié avec une femme sans avoir un petit arrière-pensée. Mais en fait, déjà, de l'un, ce que j'avais pas remarqué, c'est parce que moi, j'étais attiré par les femmes que je rencontrais sexuellement et que parfois, il m'arrivait de nouer des amitiés sans faire gaffe, hein, avec cette petite tâche de fond, cette petite intention de fond, sans faire trop attention. Et donc, du coup, c'était pas spécialement une amitié qui se transformait en truc sexualisé, c'était une intention sexualisée qui se transformait en amitié, qui potentiellement se retransformait en quelque chose. Donc déjà, ça fait un petit nœud dans la relation. Et aujourd'hui, j'ai évolué sur la question, ce qui me fait me dire que je suis neutre pour rigoler, mais j'en sais fichement rien. Aujourd'hui, moi, ma croyance, c'est que coucher avec ses potes, c'est pas spécialement bon, tel que moi je l'ai fait en tout cas. Peut-être que ça pourra de nouveau évoluer et que je pourrai avoir d'autres contre-exemples et on va en parler. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup de négatifs. Et juste, je termine sur ça, c'est que pour la petite anecdote, ça me semblait intéressant de le dire, Juju, qui avait été invité dans le premier épisode de la saison 1, on ne se parle plus aujourd'hui, plus du tout, on n'a plus du tout de contact. C'était une excellente amie, une de mes plus proches, pendant longtemps. Et après l'épisode, on s'était revus pour discuter de notre attirance, de discuter comment on allait la faire vivre, etc. On s'était dit que potentiellement on se mettrait dans une relation romantique ouverte, bref. Il y a eu des tentatives, on n'a rien fait, on ne s'est pas embrassé, on n'a pas couché ensemble. Mais il y a eu beaucoup de confusion jusqu'à ce qu'on arrive à un moment de telle confusion qu'on a dit « il faut qu'on arrête de se voir, c'est plus possible de continuer à se fréquenter dans un truc qu'on n'arrive pas à trancher, on se fait souffrir sans faire gaffe, etc. etc. » Voilà, donc ça c'est pour le contexte depuis, parce que je pense que ça dit long sur comment j'ai évolué et pourquoi j'ai évolué depuis.
Et pourquoi t'avais envie de faire du coup ce deuxième épisode qui traite en partie du même sujet en fait ?
Parce que, en fait, déjà c'est important pour moi que le premier épisode ne reste pas comme une vérité absolue, qu'on le re-questionne et on le refera dans 2 ans et 2 ans après. Enfin vraiment, je pense que philosophiquement c'est important. Mais sur ce sujet-là, encore plus parce que ça m'a tellement coûté, moi, d'avoir la croyance de « c'est ok de coucher avec ses potes ». Que si mon avis ou mon évolution peut en tout cas mettre en garde, je dis pas faire changer d'avis, mais en tout cas dire si vous le faites, faites-le en conscience, je pense que c'est important d'en parler.
On est là pour ça.
Et Alba, t'es le premier contre-exemple de... Enfin, t'es celle, inconsciemment, hein, enfin, c'était pas volontaire, qui a brisé ce schéma chez moi de coucher avec mes potes filles, parce que je le faisais beaucoup. Et ça m'a vraiment ouvert de nouvelles perspectives quant à l'amitié homme-femme. Du coup, ce qu'on vit nous, Alba, le fait d'être pote sans ambiguïté, c'est quelque chose que toi, tu connais souvent ?
Oui, en fait, pour moi, c'est ma norme, en fait, parce que j'ai jamais connu d'ambiguïté dans mes amitiés, hommes-femmes, mais aussi parce que j'ai commencé à avoir des amis masculins à un âge où tout d'un coup, il n'y avait plus cette peur de l'ambiguïté. Alors en fait, du coup, pour être un peu plus précise dans ce que je raconte, je vais rentrer dans mon vécu, mais en gros, pendant toute l'adolescence, j'avais que des amies filles. Et en fait, c'est lorsque j'ai eu mon premier copain à 16 ans que j'ai enfin pu nouer des amitiés avec des hommes. Parce qu'en fait, pendant ce moment-là de l'adolescence, en fait, j'avais toujours l'impression d'être scrutée et observée par les gens à l'école. Et du coup, en fait, dès que j'abordais un mec, mais juste parce que j'avais envie de lui parler, mais justement, même sans arrière-pensée, j'avais l'impression que tout de suite, les gens allaient s'imaginer que je le draguais, qu'il se passait quelque chose. Et même si j'avais envie de draguer un mec, en fait, ça m'était extrêmement mal à l'aise que ça soit genre fait sous le regard des gens. Et en fait, c'est qu'au moment où tout d'un coup, j'étais en couple, que c'était quelqu'un qui était dans mon lycée, donc tout le monde était au courant, c'était officiel, que cette peur, en fait, elle a sauté parce que cette ambiguïté qui pouvait exister à l'époque n'avait plus raison d'être. Parce que voilà, entre guillemets, j'étais maquée, donc forcément, on va dire dans la réflexion un peu simpliste de quand t'es adolescent, si je parlais à quelqu'un, il y avait forcément pas de d'arrière-pensée, de séduction. Et donc du coup, moi j'ai pu nouer mes premières amitiés avec des hommes à ce moment-là, et puis en entrant dans l'âge adulte, c'est vraiment quelque chose, c'était plus une problématique en fait. Donc en fait, spontanément... j'allais parler avec des mecs sans avoir peur qu'il y ait confusion, en fait, sur mon attention, quoi.
Mais du coup, toi, t'avais peur qu'on fasse une confusion sur ton intention, mais qu'est-ce qu'il en était de l'intention du mec ? Est-ce que t'as déjà ressenti un mec, du coup, même si toi, tu venais pas dans ce but-là, qui avait une intention ambiguë vis-à-vis de toi ?
Je pense que finalement, ça m'est jamais arrivé.
Ah bon?
Bah, en fait, je sais pas comment te dire, mais en fait, que déjà, quand tu rencontres une personne, enfin, la première fois qu'on se parle, je trouve ça difficile de te dire qu'en fait, le mec, il a déjà des attentes, à part que ça soit dans un cadre un peu spécial, comme, je sais pas, une boîte de nuit, un bar, ou, enfin, tu sais que ça peut être des lieux de séduction, donc je suis pas non plus naïve. Mais, enfin, pour donner un exemple concret, quand on s'est rencontrés, Florian, on était sur notre lieu de travail, je te demandais de m'emprunter un livre au CDI de notre école, donc si tu veux...
Faut rappeler qu'on avait 12 ans, hein.
Donc tu vois, en allant te parler ce jour-là, la question de l'ambiguïté se posait pas.
Et bah,
donc...
tu vois, pour moi, si.
Ah oui?
Bah ouais.
Ah donc en fait, t'as cru que c'était un prétexte?
Non, mais ça pourrait, tu vois.
D'accord.
Genre. Et même au-delà, je me suis pas dit, tiens, c'est une technique de drague, mais ça aurait pu être, tiens, bah maintenant qu'on a le contact, ça va être plus facile. Enfin, tu vois, ça peut aller très vite en fait chez un homme. Je vais généraliser, mais en fait, chez moi, ça peut aller très vite de me dire, il se pourrait que, pourquoi elle me parle à moi? Bon, là, il s'avère parce que j'étais dans ton école. Donc là, oui, il y avait une intention. Ton intention était très claire sur le fait que tu m'utilisais pour un livre. Donc ça, c'était...
Merci, hein.
Non, je t'en prie. C'est... Mais je pense que du coup, le contexte de notre rencontre utilitariste a fait que je m'attendais pas à plus de toi. Mais j'aurais pu quand même me monter le bourrichon, tu vois. J'aurais pu quand même...
Non, c'est vrai. Bah, je sais pas si je suis naïve dans ces cas-là, mais tu vois, dans des circonstances similaires à notre rencontre, c'est vrai que moi, mon attention, en fait, elle est tellement claire que je peux pas m'imaginer que le mec s'imagine autre chose, à moins qu'après, derrière, clairement, je sens qu'il flirte, qu'il me propose, je sais pas, d'aller boire un verre, ou clairement, je sais qu'il y a une envie d'aller plus loin dans la rencontre qui dépasse l'empreinte du livre au CDI.
Je t'ai proposé d'aller à la salle de sport. Hein,
ah bah, on a vécu
engagement.
Des choses très fortes à la salle. Hein.
Networker, ça pourrait être un signe.
Mais du coup, comment toi tu expliques que entre nous, tu vois, il n'y a pas eu plus d'ambiguïté en fait de ta part? T'as le droit de dire que je te plais pas, hein, je le prendrais pas mal.
Non. Je pense que c'est parce que t'as jamais laissé une ombre de doute. T'as jamais laissé une ouverture, mais même une minime. Jamais tu m'as fait un truc un peu ambigu, un peu coquinou.
Je me suis mise à twerker devant toi de façon
tellement.
C'est
intéressant ça. Du coup, c'est à dire que toi, de ton côté, t'aurais pu être prêt. Et c'est juste que le signal en face n'a pas été renvoyé.
Mais je crois que oui. Et c'est ça où c'est là où moi je suis un gros dégueulasse. C'est ça le mot que je cherche.
C'est qu'en fait on attend toujours un retour.
En vrai, moi à cette époque-là, en tout cas aujourd'hui c'est plus le cas. On reparlera d'aujourd'hui, mais à l'époque on s'est rencontré à Alba. Il y avait un truc où c'est vraiment une phrase d'Orelsan. J'ai des problèmes d'ado à régler, enfin des complexes d'ado à régler. Je baiserai n'importe quelle meuf par curiosité. Et moi j'avais vraiment ce truc-là. J'avais vraiment ce truc même, tu vois, par envie, par plaisir et tout ça d'abord, mais aussi par curiosité, par tu vois, donc ce qui fait que j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein, avec des amis notamment qui ont détruit des trucs. Mais je pense que si t'avais laissé une ouverture, Alba, moi j'y serais, je pense que j'y serais allé.
Ouais, tu te serais amusé, quoi.
Ouais, mais aujourd'hui, en fait, à force de fermeté, de twerk, tu dises non, Florian, ces fesses ne sont pas pour toi. Et bah, j'ai fini par... C'est devenu un peu la règle entre nous. Et aujourd'hui, je me l'applique à moi-même sans que t'aies besoin de le faire. Donc du coup, c'est ok. Ce qui fait que vraiment, quand tu me dis, viens, on va dans un club échangiste et tout, bah le premier truc qu'on se dit, c'est ok, quelles sont les règles pour pas qu'on soit gêné. C'est pas
bien
genre
sûr.
Quelles sont les règles pour pas qu'on baise ensemble. Là, ça serait si stupide, quoi. Vraiment jamais ça a effleuré.
Mais après, je pense que c'est aussi pour ça que je peux débarquer chez toi quand t'es seule et me mettre à twerker devant ton miroir sans que y ait ambiguïté. Oui, ça reste bizarre. Je l'admets.
Bizarre, oui.
Mais un bizarre sympathique. Un bizarre amical.
Ça, c'est sur ta bio Tinder. Bizarre
en fait, c'est parce que t'as juste enregistré le fait que tu sais qu'avec cette personne-là, ça sera jamais possible.
Ouais, il y a ce
truc. Et donc, toi, en fait, peut-être l'attirance que t'avais dès le début, tu t'es dit, en fait, je la mets de côté parce que ça sera pas possible et elle a pas lieu d'être.
Mais je pense qu'il y a même
et
pas eu attirance, en fait.
Non, elle a pas eu le temps d'émerger parce que moi, elle vient aussi de fait de connaître et tout. Et vu qu'Alba, elle a mis les règles très claires, il y a jamais eu d'ambiguïté ou même s'il y avait eu, tu vois, si on avait laissé un petit truc au début, il y aurait eu une frustration qui fait, il y a eu des meufs que j'ai rencontrées et c'est encore une fois, c'est pas elle, c'est nous deux, quoi. Ou au début, il y avait peut-être une petite ouverture par hésitation parce que je leur avais plu, même si elles étaient en couple ou quoi. Qui fait que tu te dis où c'est possible et à partir du moment où ça se referme, bah du coup il y a une frustration et t'es tout le temps à essayer de reconquérir ta frustration, de te dire bah non mais ça pourrait se passer ou mais voilà, mais entre nous il y a jamais eu ça et donc du coup aujourd'hui et c'est beaucoup plus simple, moi ça me repose beaucoup ce que j'ai jamais connu, c'est que j'ai pas d'autres paramètres à tenir en compte que de savoir comment tu vas, de savoir comment nous on va amicalement. Si on rajoutait un espèce de niveau sous-jacent ou flottant, ça me fatiguerait, ce qui m'a énormément épuisé dans mes autres relations. C'est triste, je suis triste.
En fait, je crois que je suis en train de me rendre compte que l'amitié homme-fille, elle est possible à partir du moment où quelqu'un met un stop ou une règle et qu'après, en fait, il n'y a plus du tout d'ambiguïté. À partir du moment où t'es pas allé sur ce sujet-là de comment tous les deux on est, comment on se sent, il y aura toujours cette petite ambiguïté. Mais si quelqu'un fait le pas vers l'autre pour dire en fait il se passera jamais rien d'autre, etc. En fait, tu pars du principe que ok, ben on reste amis parce que déjà cette fille je l'apprécie avant. Donc pourquoi pas continuer juste en étant amis.
En fait, je pense que l'enjeu, tu vois, c'est plus si dès le départ il y a une attirance entre les personnes, quoi. Parce qu'en fait, je pense que même si une des deux personnes met, comme tu dis, un stop ou une règle ou établit genre verbalement, en fait, il n'y aura pas plus. Mm. Je pense que l'autre personne pourrait toujours avoir un espoir, une attente, tu vois, que la relation se développe vers d'autres spectres que l'amitié. Et donc, tu vois, je suis pas sûre que tu vois que ça permettre vraiment d'enlever toute ambiguïté pour certaines personnes. Je pense que là, tu vois, la chance qu'on a eue avec Florian, c'est que mon attention, elle était tellement genre posée de façon très stricte sur ce livre du CDI que vraiment, il n'y avait aucune possibilité pour lui de s'imaginer quoi que ce soit d'autre, quoi.
C'est pour ça que je te le rends toujours pas. C'est, que j'ai besoin
c'est vrai que c'est marrant sur une première rencontre se dire qu'en fait, ça a conditionné votre relation sur tout le reste. T'aurais pu, toi, te dire, bon, c'est pas une finalité en soi, j'essaie de peut-être aller en chercher plus après et tout. Mais en fait, automatiquement, tu t'es dit...
Bah ouais, parce qu'en fait, ouais, c'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, il y a eu ce truc, Alba m'a offert, voici le modèle de relation dans lequel on va être. Donc il va être, tu vas me chercher des livres. Non, mais il va être amical,
c'est
quoi.
Ton chien.
C'est ton chien. Il y avait ce truc de, ok, voilà le périmètre et voilà ce qu'on va explorer et t'as pas à aller chercher ailleurs. Alors que quand il y a quelqu'un qui te laisse une ouverture ou que toi tu espères une ouverture, il y a toujours ce truc de, ouais, je vais aller le tenter ou je sais pas. Donc je pense que le fait que le périmètre soit très clairement établi, ouais, ça apaise, quoi.
Puis je pense que tu trouvais aussi ton compte, en fait.
D'aller te chercher des livres. Hein.
Bien sûr. Ouais.
Non, mais alors, c'est aussi ça, c'est que moi, ça m'a fait du bien aussi d'être... Enfin, tu dis trouver ton compte, mais c'est...
Bah, je pense que notre relation te plaisait comme elle était, quoi. Il n'y avait pas besoin d'ajouter une dimension sexuelle.
Et c'est ça, quand je disais périmètre, c'est que jamais je me suis dit... Jamais, en fait... c'est ça. Jamais j'ai idéalisé ce que ça pourrait être de plus. Et je mets plus entre guillemets, parce que je ne pense pas que le sexe ou la relation romantique soit un plus par rapport à la relation amicale, ce que j'ai longtemps cru. Mais du coup, le fait que de pas idéaliser autre chose que ce qui était déjà, ça m'a permis de profiter de ce qu'on avait et de encore en profiter aujourd'hui.
Après, je sais pas si ça peut être un élément de réponse supplémentaire, mais là, tu viens de dire quelque chose qui pour moi est très important, c'est que je mets beaucoup de valeur à l'amitié de façon générale dans ma vie, peu importe que ce soit une amitié avec un homme ou une femme. Et ce qui fait que pour moi, c'est très beau, en fait, de nouer une relation amicale avec quelqu'un de nouveau et que ça me satisfait amplement. Et même maintenant, en fait, c'est quelque chose que je cultive plus que même des relations amoureuses ou sexuelles, quoi. Donc, y a peut-être ça aussi où beaucoup de gens rêvent, en fait, plus de relations romantiques ou des relations même juste sexuelles avec l'autre. Et ce qui fait qu'en fait, il y a toujours cette attente, cette envie, et qui fait que l'amitié ne semble pas suffisante, ou en fait, juste ne répond pas à leurs désirs du moment.
Et ça, c'est important parce que dans l'épisode de la saison 1, j'ai eu l'impression que et Théo et moi et Juju, en fait, tous les trois, on voulait multiplier les expériences sexuelles ou romantiques, ça dépendait des personnes, et qu'on puisait dans le vivier, dans le réservoir qu'on avait, qui étaient nos potes. Et moi, je trouve aujourd'hui, hein, je trouve que c'est d'une cruauté de faire ça. Enfin, c'est vraiment de vouloir distordre quelque chose qui en soi est déjà bien. Et aussi par flemme, tu vois, ben va chercher tes relations sexuelles ailleurs, va, t'as pas besoin d'aller, comment dire, teinter différemment tes amitiés ou diluer tes amitiés ou, tu vois, d'ajouter une couleur qui fait qu'au final tu vas te retrouver avec un marron moche. J'ai aussi appris, moi, à me satisfaire des relations sexuelles que j'avais, en fait, comment dire, de faire le deuil aussi, de me dire c'est bon, j'ai pas besoin de multiplier les expériences romantiques ou sexuelles et d'arrêter d'aller chercher chez mes potes des expériences en plus.
Pour le coup, je te rejoins à 100% sur ça, sur le fait de dissocier le sexe des potes. Avant de préparer ce podcast, etc., j'ai essayé un peu de réfléchir à ça. Et je me suis dit que, en fait, j'ai pensé aux coups d'un soir, etc. En fait, avec des potes, ça peut devenir des coups d'un soir ou juste des coups où tu aurais une relation sexuelle, etc. Normale. Et en fait, je me suis dit, je crois que je préfère juste pour avoir du sexe, quelqu'un que je connais pas du tout, ouais. un coup d'un soir, que quelqu'un que je connais, où ça, après, ça va amener beaucoup de questions, ça va amener qu'est-ce qu'on est pour tous les deux, etc. Des prises de tête, etc. Que ce que tu recherches, en fait, en soi, pour un coup d'un soir, c'est tout l'inverse. C'est juste te libérer. Et pouvoir être quelqu'un le temps d'une soirée, etc. Et pas devoir après gérer tout le service après-vente, si je puis me permettre. Mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je me dis, moi, j'ai jamais vraiment, on va dire, couché avec une pote avec qui j'étais déjà. Après, je l'ai peut-être fait, mais c'est des potes où, pour lesquelles je suis devenu ami avec elle, avec un but derrière la tête, oui. sûrement, quoi.
Alors, voilà. Attends, parce que tu dis jamais et peut-être dans la même phrase, ce qui me pose question, du coup, tu l'as déjà ou pas fait ?
En soi, oui, je l'ai déjà fait.
Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'avait motivé ? Enfin, comment ça s'est passé de coucher avec cette pote-là ?
Je pense que c'est... en fait, c'est quelqu'un qui me plaisait dès le début, mais où tu sens peut-être pas l'ouverture. Et en fait, lâchement, je crois que tu te mets dans la friendzone. Ouais. En fait, c'est quelque chose... La friendzone, en fait, elle existe vraiment, mais est-ce que tu tombes dedans ou est-ce que tu t'y mets toi-même en attendant de peut-être pouvoir avoir un peu plus après ? Bah, je pense que moi, c'était surtout ça. C'était, en fait, j'étais dans la friendzone parce que je sentais que je plaisais pas vraiment à cette fille, etc. Et en fait, je suis resté un bon moment dans la friendzone, peut-être un an, etc. C'était une de mes premières relations amoureuses quand j'étais assez jeune. Et ouais, clairement, je me suis mis dans la friendzone en attendant de voir si avec cette fille, il pouvait y avoir plus. Et en fait, ce qui t'effraie, c'est d'essayer de tenter quelque chose et de peut-être tout perdre, en fait.
Ah ouais.
Donc ouais, c'est quelque chose où... Plus jeune, je suis resté longtemps dans la friendzone en attendant de voir une opportunité de mettre une petite attaque comme ça.
Mais tu vois, je t'écoute, j'ai eu la même image en pensant à cet épisode ce soir. C'est, je me suis dit, mais je suis un renard caché dans le poulailler. Tu vois,
genre. Non, mais c'est totalement.
Et je suis un renard qui fait quoi en espérant que personne ne me voit. Mais en vrai, je me suis rendu compte que j'ai fait ça et j'en suis malheureux de m'être rendu compte de ça. Mais c'est pas grave, je vais le mettre à jour. C'était une stratégie que j'avais de faire genre, je suis pote. Pour que ce que tu dis, genre tenter la petite attaque quand tu sens la petite ouverture, tu te dis mais putain, c'est beaucoup de fatigue et beaucoup de, comment dire, de non authenticité, non sincérité et de négation aussi du rapport à l'autre, quoi.
Ouais, je pense que c'est un peu de, je sais pas si c'est de la lâcheté ou du manque de confiance en soi, c'est peut-être un peu des deux, mais clairement, ouais, tu t'attends ton petit moment pour mettre ton attaque. Enfin, je trouve ça un peu avec du recul un peu ridicule.
Mais toi, du coup, t'as fini par coucher avec elle?
J'ai fini par en sortir et même sortir avec cette personne pendant un an et demi un peu plus. Ouais, c'était vraiment ma première relation amoureuse. Donc en fait, pour revenir un peu sur ce que disait Alba plus tôt, sur comment on se construit, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, quand j'étais plus jeune, adolescent, je parlais pas forcément des filles. Et en fait, après, quand tu commences à parler des filles, direct, tu parles à une fille, tu t'imagines que c'est ambigu. C'est pas, viens juste, on va être potes, c'est si tu parles à une fille, c'est qu'il y a ambiguïté, etc. Donc en fait, avec cette fille, c'était un peu comme ça, on a été en cours ensemble, etc. On rigolait, elle me plaisait bien, et en fait, tout de suite, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui peut se passer de plus ? Moi, j'aimerais bien. J'avais pas l'impression que c'était réciproque, etc. Et en fait, t'es le bon copain, etc., à côté, à souffrir quand tu vois cette fille qui voit d'autres garçons, etc., ouais. un peu dans l'ombre. Et mais le moment où ça se présente, etc., je sais pas, on devenait vraiment un peu plus proche. J'ai commencé à sentir l'ambiguïté et puis après je me suis lancé et ça s'est fait. Donc pour le coup c'est hyper bien parce qu'en fait tu transformes une amitié en relation amoureuse. Donc dans une relation amoureuse tu cherches forcément une relation déjà amicale avec la personne, qu'elle te plaise au-delà du physique, c'est que vous entendez super bien, que vous pouvez faire la même chose, etc. Donc en fait c'était super bien. Après le risque que tu prends, c'est que tu sais que tu franchis un cap et que tu pourras jamais faire machine arrière. Enfin, moi, ce que je pense, c'est que quelqu'un avec qui tu as une relation sentimentale amoureuse, après, ça peut pas redevenir une pote, par exemple.
Pour moi, j'ai eu ça. Alors, j'ai pas eu de relation longue après. J'ai eu que des coups d'un soir, plus ou moins. Et après, c'était fini. Mais parce que je pense que ma première intention était sexuelle. Et quelque part, c'est horrible à dire, mais qu'une fois que le sexe est arrivé... Bah, j'ai atteint mon objectif et mon intérêt se perdait. Et c'est vraiment très dur à dire et j'en suis triste de remarquer que j'avais ce comportement-là. Mais en termes de stratégie, c'était efficace, tu vois. Si, c'est juste que j'ai impliqué une amitié dedans, quitte à la gâcher à mes fins et aux dépens de l'autre.
Donc toi non plus, en fait, t'as jamais pu revenir après sur une amitié après avoir couché avec quelqu'un?
Non, mais j'ai jamais réussi. Et c'est marrant parce que tu viens de parler de jalousie après, après avoir été intime. Et du coup, ça me fait me demander, est-ce que vous avez déjà vécu, alors toi Alba du coup non, parce que tu n'as pas eu de relation ambiguë.
Elle a peut-être eu du désir, mais elle a jamais franchi le cap par...
Ça m'arrive d'avoir du désir.
Pour des affaires, pour des amis, est-ce que déjà tu t'es dit et tu te mets toi-même des
Ah non, mais jamais.
Des freins,
mais en
etc.
fait, c'est pour ça que je suis en mesure d'avoir des amitiés avec des hommes. C'est que si de départ, j'ai pas eu de désir physique pour eux, c'est que ce désir-là va pas arriver ensuite.
Ok. Voilà. Ce que je trouve hyper intéressant, ça serait de demander à tous tes amis comme ça, est-ce que de leur côté, c'est la même chose? Parce que pour moi, l'ambiguïté, en fait, il y a toujours ambiguïté, mais c'est pas forcément pour tous les deux.
Non, mais bien
c'est
sûr.
Forcément d'un côté ou de l'autre. Non, mais peut-être eux, ils sont justement dans cette petite zone, le poulailler, comme l'appelait... Ils sont dans le poulailler à attendre que Alba soit libre, quoi.
Je suis persuadée qu'ils sont pas dans le poulailler. Après, je mentirais si je me suis pas déjà posé la question, si ils se posaient pas justement des questions dans leur coin. Après, je suis quasiment sûre qu'ils sont pas dans le poulailler.
Est-ce que tu t'es déjà demandé si j'étais dans le poulailler avec toi?
Non.
Moi, je me suis déjà demandé.
Alors,
vous deux.
Je pense que au bureau, je pense qu'au travail, tout le monde pensait qu'on était ensemble, hein, Florian. Mais
ah
je crois que je te l'avais déjà
mais
dit.
Ça, c'est infernal. De toute façon, dès que tu parles à une fille,
mais
un peu proche,
on m'a déjà posé la question. Bah, il faut comprendre qu'avec Florian, on rigolait tout le temps au bureau, on se parlait tout le temps, on allait au sport ensemble.
C'est vrai.
Et du coup, je pense que pour nos collègues, ça soulevait beaucoup d'interrogations sur notre relation. Après, bien sûr, en préparant ce podcast. Forcément, la question a surgi dans mon esprit, est-ce que Florian est dans le poulailler? mais après, j'ai envie de te dire, même s'il l'est, je pense que je m'en fiche totalement. Enfin, genre, désolé, hein, mais parce que j'ai l'impression que c'est un peu violent de dire ça, parce que c'est un peu comme si je me disais, genre, j'en ai rien à foutre de ce que tu ressens. Mais j'ai l'impression qu'on a dépassé ce cap du poulailler, quoi.
Mais même, je vais te dire, ça me vexe pas. Ok, j'en ai rien à foutre.
Ok.
Non, mais déjà, ça me vexe pas. Et en plus, limite, ça me soulage. Parce que j'en ai marre qu'on veuille me baiser. Non, ça... mais ça me soulage, en fait, que... Aussi, moi, j'ai été sujet de désir beaucoup. Enfin, beaucoup, parce que je pense que j'avais...
Assume-le.
Non, mais parce que je pense aussi que j'envoyais cette vibe-là, tu vois, de sexualiser mes relations avec les femmes, etc. Et donc, du coup, je devais attirer des femmes qui devaient vouloir jouer sur le même plan que moi. Auriel, tu parlais à un moment de jalousie, une fois qu'une amitié s'est transformée en autre chose de romantique ou de sexuelle, qui revient à une amitié. Là, tu peux ressentir une jalousie dans la troisième phase. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir de la jalousie pour quelqu'un avec qui t'avais une ambiguïté sans que ça ait été consommé déjà ou consommé c'est horrible?
Ouais, avec la même personne justement avant.
Avant t'étais jaloux.
Vu que t'es déjà intéressé et que tu t'es mis dans la friendzone, etc. À partir du moment où t'es le bon copain et cette personne, elle peut te parler de ses relations, etc. Ou elle va voir d'autres personnes. J'ai une anecdote sur ça d'ailleurs. Cette fille qui m'intéressait, on était à une soirée où on était resté dormir chez le copain, etc. Et je crois qu'elle était partie, et à un moment donné dans la nuit, on m'appelle, elle m'a dit « Ouais, je suis avec un gars, on n'arrive pas à rentrer, est-ce que tu peux m'ouvrir et tout ?» Tout le monde dormait. Et moi, j'étais le gars qui devait aller lui ouvrir la porte pour qu'elle aille faire ses bails avec un gars et tout, tu vois. Avec du recul, c'est drôle, tu vois, ça me fait rire maintenant. Mais quand t'es jeune et que c'était tes premières relations et que tu dois faire ça, tu te dis « Vas-y, c'est ma pote, je le fais, mais... » C'est juste horrible à vivre, quoi. Donc, clairement, je peux te dire qu'il y avait de la jalousie. Ouais.
J'ai la poitrine qui a fondu quand t'as dit ça. Mais en vrai, c'était pas tant une amitié ambiguë que t'étais amoureux d'elle, quoi. Enfin, si tu dis que c'était une relation...
En fait, je pense que j'ai été amoureux d'elle. J'ai été peut-être ami un petit peu au début, mais c'est quelqu'un que je connaissais, etc. Mais de loin. Et dès qu'on a commencé à se rapprocher amicalement... C'est là que j'ai commencé à tomber un peu amoureux d'elle.
Ouais.
Et que je me suis mis dans la friendzone.
Ouais, ok. Parce que du coup, toi, ça a été une stratégie à cet âge-là de te foutre dans la friendzone. Mais quelque part, ton intention, alors c'est un jugement, mais t'es un peu plus noble dans le sens, tu dis ok, je suis amoureux d'elle et je veux être proche d'elle. Et si ça marche que par l'amitié, je le ferai. Toujours avec ce truc d'espoir que ça se passe. Et au final, ça a fini par se passer.
Mais je pense que ça, tu vois, je le remets vachement en question dans le temps parce que c'était une époque, du coup, j'avais 19 ans. Je pense que c'est quelque chose que je referais, mais pas du tout maintenant. Et cette histoire de friendzone, même, j'ai l'impression qu'elle n'existe même plus maintenant pour... je ne sais pas si pour vous, vous sentez encore la friendzone maintenant. Moi, c'est quelque chose, la friendzone, que j'associais à peut-être un manque de confiance, etc. plus jeune, où tu n'oses pas faire quelque chose, où maintenant, elle existe, mais plus du tout, la friendzone. Si quelqu'un te plaît, tu tentes quelque chose, tu vas voir ce qui se passe et il y a plus ce souci de essayer de se mettre dans la friendzone ou de mettre quelqu'un dans la friendzone. C'est, elle a disparu clairement pour moi.
En fait, la friendzone, c'est la méthode du poulailler que vous décrivez depuis le départ.
C'est exactement ça.
En fait.
Ouais, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que dans la friendzone, oui, on entend cette inquiétude, cette peur de pas baiser.
Il me semble que vous en parliez dans le premier épisode de la friendzone. Et justement, en réécoutant l'épisode, je m'étais noté cette question philosophique. Je n'ai pas de réponse à apporter, mais je me demande, est-ce qu'il y a vraiment une amitié quand quelqu'un se sent friendzoné?
Et alors, c'est une vraie question à laquelle aujourd'hui, moi, je dirais non. Et c'est dur, mais parce que moi, j'en ai payé le prix fort. J'avais beaucoup d'amis filles quand j'étais à la fac. J'ai couché avec quasiment toutes. Ou j'ai été conduit... j'ai été conduit par le reste. Et du coup, je me retrouve aujourd'hui avec plus aucun lien d'amitié féminine de mon passage à la fac, alors que j'ai contact avec encore des potes mecs, quoi. Et je me dis, mais je pense que c'est parce que j'ai essayé de... C'était pas sincère, c'était pas une amitié sincère, j'avais ni idée derrière la tête, et donc du coup, voilà. Et aujourd'hui, quand je rencontre des meufs, vu que je pense que je me suis apaisé dans mon rapport, dans mon test à ma... capacité de séduire, capacité de coucher, ou je dis capacité comme si c'était quelque chose que t'arrivais à faire ou pas, mais je me suis apaisé, quoi. Aujourd'hui, quand j'écoute une meuf, je l'écoute sans arrière-pensée, ce que je faisais pas avant.
En fait, moi, je me dis, est-ce que c'est viable sur le temps, en fait? Parce que soit la personne qui a des attentes, elle lâche ses attentes, et donc du coup, ça rééquilibre la relation, tout le monde est aligné, et donc c'est peut-être là le moment où l'amitié va vraiment naître. Mais est-ce que c'est pas en fait forcément voué à l'échec?
Alors, moi, je reviens sur... En fait, ça me refait penser à votre première rencontre avec le livre. Si par exemple, t'es intéressé avec quelqu'un, tu te mets toi-même dans la friendzone, et que la personne en face te fait comprendre que c'est vraiment pas possible, à partir du moment où t'as eu ce blocage psychologique où la personne t'a dit non, mais que tu sens qu'elle est quand même cool, etc., je pense que tu peux vraiment retourner ton esprit, mais passer à autre chose et te dire, en fait, avec cette fille, j'aurai seulement de l'amitié.
Il y a ce truc où j'ai vraiment l'impression que dans l'ambiguïté, tu dis quelque chose de négatif en faisant oui de la tête et avec les yeux qui crient braguette, quoi. Donc,
J'adore cette phrase, c'est tellement une bonne ligne.
Je te rejoins à 100% là-dessus. Et je pense que, est-ce que toi-même, tu l'as déjà fait? Moi, je vais te donner mon exemple, je le fais. Et quand j'y réfléchis, après coup, je me dis c'est hyper puéril et c'est seulement pour plaire. Tu sais que tu plais et tu veux juste rester dans ce jeu-là de je plais à mon copain, je plais à ma copine. Moi, j'ai des amis où je sais que c'est ambigu, peut-être plus, surtout de leur côté. Et en fait, je peux rester dans ce jeu-là et jouer au lieu de justement mettre ce stop et qu'après l'amitié soit claire entre nous. Est-ce que je mets pas ce stop parce qu'au cas où je me dis je garde ça sous le coude, j'ai pas la réponse encore, mais je sais que c'est pas super de faire ça.
Ce qui est violent dans le fait de conserver une ambiguïté dans une amitié, je pense, c'est que c'est unilatéral. C'est que tu penses que tu fais quelque chose en lien avec l'autre, mais en fait, c'est uniquement pour te rassurer toi au dépens de l'autre, au détriment de l'autre. Et donc, c'est ultra violent. Alors qu'on pense qu'on laisse une petite ouverture, que c'est cool, c'est la liberté. En fait, c'est d'une violence parce que c'est une négation de ce que l'autre est et de ce que votre relation est vraiment.
En fait, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que moi, dans la situation inverse, je me suis déjà retrouvée face à des personnes qui attendaient plus de la relation qu'on avait, alors que j'avais clairement affirmé que je voulais être simplement... je voulais seulement avoir une amitié et que je n'étais pas du tout intéressée pour autre chose. Et en fait, quand je sens que malgré ma position ferme, l'autre reste avec des attentes, pour moi, de mon côté, l'amitié, elle ne peut pas avoir lieu, en fait. Je peux pas être en fait spontanée, je peux pas être authentique, même si en fait je ne fais que affirmer ma position. Si l'autre en fait n'arrive pas à passer à autre chose, pour moi l'amitié elle peut pas avoir lieu.
Et en t'entendant dire ça, j'ai raté des voyelles là.
C'est l'effet de la bière.
En t'entendant dire ça, je me dis parce qu'en fait l'amitié elle est inconditionnelle. Et quand tu rencontres quelqu'un avec la volonté que peut-être ça se transforme en autre chose, t'es en train de mettre des petites notes de bas de page que l'autre ne lira jamais. T'es en train de créer des conditions. Et ce qui est marrant, c'est qu'en 2 ans de temps, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être un papa, quoi, de dire ça. Alors que quand je me réécoute d'un épisode qui était il y a pas si longtemps, j'étais sur les vies complètement inverses, mais parce que j'avais pas terminé de me prouver ce que j'avais à me prouver. Donc je suis pas en train de donner des leçons. Allez ken qui vous voulez ken du moment que c'est consentant, ruiner des amitiés du moment que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, consolider des amitiés aussi, parce que là on parle que de notre expérience, mais moi encore une fois j'ai entendu des gens pour qui coucher avec un ami a renforcé une amitié, et même j'ai entendu quelqu'un me dire récemment que le fait de coucher avec son ami ça a clarifié la situation, qu'il n'était pas fait pour s'entendre sexuellement et qu'il fallait s'en cantonner à leur amitié parce que c'est ce qu'il fallait, enfin c'est ce qu'il faisait de mieux, donc comme quoi
c'est vrai que c'est peut-être le moment de s'en rendre compte au moment où t'es en face.
Ah, j'ai cru que tu voulais qu'on ken tous les deux.
Ça viendra peut-être plus tard. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être le moment où tu te rends compte que, bah, en fait, ça doit rester juste une amitié et que tout ce jeu que vous aviez avant n'en valait pas la peine. Je pense que ça m'est arrivé une fois où j'avais une amie qui était sûrement un peu plus intéressée par moi que pour avoir une simple amitié. Et donc c'est une histoire où des soirées se passent, etc., ça s'embrasse et je finis chez cette personne sans savoir trop pourquoi, et au final on arrive au moment où on doit coucher ensemble, etc., et vraiment le moment fatidique où là j'ai en fait pas du tout envie, je me rends compte que physiquement c'est pas possible de le faire.
T'es à poil, hein.
Et ouais. Je suis à poil là clairement.
Et donc ton 11e doigt est vers le bas.
Mon 11e doigt est clairement endormi, c'est mon petit doigt de pied à l'heure actuelle. C'est le 11e doigt de pied. Et là je me rends compte qu'en fait, ben voilà, la réponse elle est là quoi. On se cherchait pendant 3-4 mois. En fait, la réponse, elle était juste naturelle. Il fallait aller au bout. Et je me dis, OK, bah pour moi, j'ai pas envie de plus. Et...
Elle est au bout du 11e doigt.
Je suis pas vraiment allé au bout.
C'est le titre de l'autobiographie d'Auriel. Aller au bout du 11e doigt. Mais c'est marrant parce que, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu as des critères qui te permettent de tester qu'il faut y aller ou pas y aller avant d'y aller?
Avec mes amis?
Ouais.
J'ai pas vraiment de critères. Je pense que ça m'a peut-être servi de leçon maintenant... Maintenant, j'ai l'impression d'avoir moins... Enfin, si, j'ai toujours des ambiguïtés, mais je sais que c'est pas quelque chose que je vais faire. Parce qu'en fait, je me suis fixé des règles, je crois. Et en fait, toutes mes amies filles, je dirais, c'est soit parce que d'un côté ou de l'autre, il y a eu un stop. Donc là, tu te dis, OK, moi, je suis quand même attiré, mais très bien, je reste où je suis et ça me va très bien. Ou soit, c'est parce que tu te mets des règles de type c'est l'ex de mon pote, de type des choses comme ça, etc., où tu te dis bah en fait même si j'ai très envie, je pense que cette question de valeur et de respect, en fait tu te dis vas-y je passe pas au-dessus, mais je te cache pas que l'envie elle est quand même là.
Et moi j'ai une question en fait à vous poser. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une amitié où on couche de temps à autre avec la personne, genre ce fameux friendship with benefits, tu vois?
Si t'as une pulsion, si t'as un désir, ce qui nous arrive tous d'avoir, il est 3h du mat, tu sors de soirée, t'envoies un message, pourquoi le faire à une amie? Autant le faire à quelqu'un où tu sais que ça restera purement sexuel et qu'il n'y aura pas d'ambiguïté derrière. C'est clairement, je pense que je me dis maintenant, la facilité voudrait que des fois, si tu sens qu'il y a une ambiguïté avec une amie, tu plais une amie et que tu connais pas d'autres personnes en ce moment, t'as pas d'autres bails, comme on dit, tu pourrais tenter de l'envoyer à cette fille, à cette amie, mais pour moi, ça amène trop de complications.
Et juste, ça peut rester en off, Auriel, mais t'avais pas un petit bail en ce moment, chelou?
Oui, un petit, je dirais un petit bail ambigu, mais c'est une fille, je dirais qu'on est assez amis, et par un autre pote, j'ai appris que ça la dérangerait pas de coucher avec moi. Donc bon, quand on te dit ça, tout de suite, t'as le 11e doigt qui se lève. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi, du coup? Bah, trop cool. T'as un feu vert, t'as un ticket.
Pourquoi ça la dérangerait pas, genre
elle est
là.
Elle est horrible cette expression.
Ça remue, mais bon,
ouais.
elle lui a dit ça.
Oui. Elle lui a dit ouais, ça me dérangerait pas de coucher avec lui.
Non, mais au bout d'un moment, t'en as envie ou t'en as pas envie.
Mais alors tu vois là, moi
c'était pour pas se l'avouer. Non, mais après on est sorti, on a fait des soirées et ça s'est clairement vu. Ça s'est frotté quoi.
Le
11e doigt en action.
Ça dérangerait pas.
Non mais ce qui est là, excuse-moi, mais du coup se frotter, il y a pas trop d'ambiguïté.
Il y a pas trop d'ambiguïté. Après la décision, elle m'appartenait quoi, à savoir si je voulais aller plus loin ou pas.
Et pourquoi tu l'as pas fait?
J'ai ce blocage de
c'est une pote.
Une personne avec elle, je savais que j'avais envie de peut-être coucher. Là, ça me dérangerait pas honnêtement coucher avec elle. Au contraire, on va pas se mentir.
Arrêtez de pas être dérangé.
Pourquoi pas
J'avoue.
Ouais, c'est vrai. C'est pas ça, se dire ça, c'est pas s'avouer qu'on a envie de le
faire.
Mais
oui, genre allez-y quoi.
Ça me dérangerait pas.
Je suis pas dérangé. Il m'a baisé hier soir.
Qu'est-ce qui te retient?
Physiquement, elle est attirante, etc. Oui. Je disais que c'est une pote. Et en fait, je pense, je l'ai jamais fait. Mais à partir du moment où je vais coucher avec elle, on s'entend vraiment bien, donc si on s'entend vraiment bien, ça va soit devenir sérieux, ce que j'ai pas envie, soit ça va devenir bizarre, Et c'est pas incroyable, quoi. Si j'ai, à la limite, si j'ai juste envie de coucher avec une fille, autant pas le faire
mais
avec
là,
elle.
Votre amitié, elle est déjà vouée à l'échec, en fait. Parce que. En fait, c'est qu'une. En fait, là, il y a le timer, tu vois. Genre, c'est tic-tac, jusqu'au jour où vous allez enfin échanger vos 11e doigts.
C'est à voir si, à partir du moment où moi je lui ai dit.
Elle en a un aussi. Je suis perdu dans notre métaphore.
Il est petit, mais il est là.
Il faut le trouver. C'est un bouton, des fois. Mais non, mais justement, si de mon côté elle sent que.
Non, mais vous êtes frotté, c'est trop tard.
Non, mais frotter.
La vieille prophétie.
Tu danses bien avec tes potes. Je t'ai bien vu twerker sur Florian et pourtant.
Elle ne s'est pas frottée.
Et je ne me suis pas frottée.
Alors, tiens, tu me lèves.
Et je me suis pas. J'ai pas twerké sur lui.
Oui.
À côté de lui.
Sur mon comptoir, à côté de moi. Non, mais en vrai, elle n'a jamais twerké sur moi. Et ce qui est intéressant, juste dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on n'a pas de contact physique tous les deux, Alba.
Oui, alors moi, ça, c'est encore un autre sujet, mais j'ai peu de contact physique avec les gens. Non, mais là, on dirait que j'ai un problème.
Ce qui explique aussi que l'ambiguïté n'a peut-être pas été amenée aussi parce que tu as cette limite physique, toi, que tu veux pas toucher.
Mais maintenant, je pense que je suis prête à toucher ton épaule, Florian.
C'est vrai ?
Ouais.
Tu veux le faire en direct ?
Enfin, ouais, vas-y. Différé. Allez, 1, 2, 3. Le contact a eu lieu.
Je vais pas dire qui, mais il y en a un des deux qui a rougi.
Mais du coup, tu vois, enfin, Auriel... Toi, cette fille-là, elle t'intéressait dès le début ou c'est venu parce
elle
que ça
été,
la dérange
en fait,
pas
elle est, c'est une fille qui est dans mon groupe de potes, dans ma bande de potes. C'est quelqu'un que j'aurais rencontré dans un bar en boîte, etc. Je pense qu'il n'y aurait eu aucun problème. À partir du moment où on est où c'est dans une bande de potes, ça va discuter après, ça va créer des problèmes, ça va peut-être priver une des deux personnes d'une partie de la bande de potes, etc. En fait, ouais, je me dis c'est trop compliqué. Mais je pense que j'y pense même pas sur le moment. C'est après avec du recul. Peut-être que après, tu vois, dans une, c'est peut-être aussi, je réagis comme ça sur cette période-là parce que je suis dans une période où sexuellement, je peux trouver du plaisir ailleurs. Si j'étais dans une période où je voyais personne d'autre, peut-être que je me dirais bon, ben voilà, ça se présente, allons-y quoi.
Tu baises en ce moment ?
Un petit peu, ouais.
Ça me dérange pas de baiser.
Ouais, j'aime bien ça.
Ça te dérange pas.
Ouais, ça me dérange pas. Moi, je trouve que, du coup, ce qui a évolué depuis le premier podcast et ce qui a évolué, du coup, dans ma vie par rapport à ces amitiés-là, c'est que aujourd'hui, j'ose couper la chaîne d'interprétation en prenant une décision sur ce que je veux. Et je ne laisse plus l'indécision ou l'ambiguïté être une forme de pseudo-liberté. Il y a aussi ce truc-là où aujourd'hui, je ne veux pas condamner une fille à être le simple objet de mon désir. Et donc, du coup, je coupe la chaîne d'interprétation en me disant, enfin, je vais l'écouter comme un être humain et ne pas m'attendre à autre chose que ça. C'est vraiment ce qui a changé.
C'est là qu'on voit que tu fais preuve d'une grande maturité. Parce que moi, franchement, j'entends ce que tu me dis et je suis absolument d'accord avec ce que tu me dis. Et pour le temps, c'est pas du tout ce que je fais. Mais je sais que c'est clairement ce qu'il faut faire, etc. Mais j'entretiens et je cultive cette ambiguïté encore avec des amis, clairement.
Je pense que clairement, la plupart des gens qui sont dans ta situation, ils le rationalisent pas, en fait. Enfin, c'est quelque chose... Enfin, tu vois, de la même manière que toi, tout à l'heure, Florian, tu disais que tu avais des problématiques de jeunesse pas réglées, et du coup, tu avais besoin d'être tout le temps, en fait, dans la séduction vis-à-vis des filles. Je pense que moi, dans mon entourage, j'ai des amis qui sont filles, qui sont dans la même problématique toujours maintenant, où en gros, tout de suite, dès qu'elles sont confrontées à l'autre sexe, au fameux troisième sexe.
Le onzième doigt.
En face à l'homme, elles sont tout de suite dans un rapport de séduction. Et même si elles en ont conscience, même si elles peuvent le rationaliser, en fait, ça les sort pas de cette dynamique-là. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de réalité, de vécu des uns et des autres. Et en fait, je nie pas le fait que pour certaines personnes, l'ambiguïté, elle est tout le temps là.
Et du coup, pour conclure, si vous deviez mettre un mot pour qualifier les amitiés hommes-femmes, vous choisiriez lequel ?
Ambigu.
Le mec, il a vraiment rien écouté.
Non, mais même malgré tout ce qu'on a dit, j'arrive à m'identifier sur ce que vous avez dit, etc. Je me dis, ouais, c'est grave possible, etc. Mais c'est clairement pas ce que je vis, moi. Et donc, clairement, pour moi, une amitié, elle reste ambiguë avec toutes les filles que je vais plus ou moins rencontrer. Mais c'est pas forcément, j'ai pas envie de mettre ça sur un terme, une connotation négative, etc. Je trouve que ça peut être hyper clair d'être ambigu avec une fille. On sait tous les deux plus ou moins qu'il y a une ambiguïté. Et on sait très bien aussi peut-être que ça va juste pas aller plus loin. Et moi, je pense que c'est ok de rester ami avec des filles qui te plaisent. Et tu vas pas forcément aller qui te plaisent. Pour moi, c'est plutôt cool de rester ami avec ces filles-là.
Mais merci de faire la distinction, parce que c'est vrai que...
On se sent jugé quand on est ambigu.
De quoi? Là, après le podcast?
Non, mais j'ai l'impression que c'est une connotation hyper négative de rester comme ça, et je trouve qu'en fait...
Je pense que c'est juste un état de fait, en fait. Ni plus ni moins.
Les meufs qui se mouillent pas. Moi, je pense que quelque part, c'est juste...
Mais je le pense vraiment.
Je pense que quelque part, c'est un peu une tautologie.
C'est ni mal ni bien, c'est juste comme ça.
Oui, non, mais par
merci
contre...
pour cette contribution.
Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal.
Nietzsche. Merci de redorer un peu le blason de l'ambiguïté. Moi, je pense que j'ai beaucoup pas tapé sur l'ambiguïté, mais en fait, j'ai pas tant jugé l'ambiguïté de tout le monde, mais j'ai jugé la mienne parce que j'ai vu les conséquences négatives que ça avait eu dans ma vie. Bon, voilà, parce que clairement, je pense que j'ai pas fait le deuil, en fait. Et donc, c'est peut-être pour ça que je suis un peu dur envers moi-même et envers ce que j'ai pu éprouver par le passé. Mais l'ambiguïté, c'est vrai que si tu ne mens pas, et si tu sais que l'ambiguïté est consentie aussi, ce que tu viens de dire, quelque part, ça peut être ok à vivre et même plaisant. Et toi, Alba, si t'avais un mot pour qualifier les amitiés on-femme, ça serait, j'ai dit on-femme, ce serait quoi?
La vulnérabilité.
Oh, wow.
De qui?
Juste de la situation. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans mes amitiés avec les hommes. C'est l'intimité que j'arrive à créer avec eux de la même manière que j'arrive à créer cette intimité avec mes amies filles. Et en fait, je suis heureuse de voir que le fait qu'on soit de genre différent, il n'y ait pas d'obstacle à certaines conversations, à certains échanges. Et c'est quelque chose qui vraiment me rend heureuse maintenant dans ma vie. Ça peut sembler un peu exagéré, mais vraiment, genre, je suis contente, tu vois, d'avoir cette amitié avec Florian. Je suis contente d'avoir les autres amitiés avec d'autres amis masculins. Et pour moi, tous ces mecs avec qui je suis pote, c'est vraiment des gens dont je me sens proche. Et si je me sens proche d'eux, c'est parce que justement, il y a cette vulnérabilité entre nous qui fait qu'on arrive à parler à peu près de tout. Et même des fois, pour certains, pas forcément toi, Florian, mais je pense que j'ai d'autres amis masculins qui arrivent peut-être à se confier plus avec moi qu'avec leur autre ami mec. Et en fait, moi, ça me rend heureuse de me dire qu'ils peuvent compter sur moi, si besoin, pour aborder certains sujets quand ils en ont envie.
Alba est génial.
Alba est génial.
S'il fallait le démontrer. Et moi, si j'avais un mot, ça serait le mot apaisement, mais qui est très perso, qui est lié à mon cheminement. Et je pense aussi que ça peut... Ce qu'on a dit là, c'est aussi de s'apaiser par rapport aux enjeux qu'on plaque sur les autres, et particulièrement les hommes, parce que je suis un homme, donc... les hommes sur les femmes, sur les signes, sur les éventualités sexuelles ou non, etc. Juste, on se fout la paix, on profite de la relation, et si ça débouche sur autre chose, de toute façon, c'est que ça devait arriver, donc foutons-nous un petit peu la paix. Et si vous voulez aller ken, allez-y avec l'intention d'aller ken. Arrêtez de faire des circonvolutions dans le poulailler, ça sert à rien.
Il n'y a pas de mal à ken ses potes.
Tant que c'est consenti.
Du moment que ça dérange pas, comme dirait l'autre.
Elle est incroyable, cette expression.
Je la trouve
horrible. Non, mais ça me dérange pas de te niquer.
Ah,
ça veut dire
triste.
Que, ouais, je pourrais le faire, mais c'est pas une grosse envie, quoi.
Parce que moi, quand quelqu'un me met une phrase en négatif, je le demande toujours, mais du coup, ça te fait quoi? Et genre, ça me dérange pas, mais ça m'ennuie. Ça pourrait être une éventualité, tu vois.
Je pense que c'est un petit. J'espère, hein, parce que vu que je me le suis pris, c'est un petit truc de pudeur, tu vois, de dire, ah, ça
oui,
me dérange
moi,
pas.
Je aussi,
genre, j'aimerais bien, mais j'ose pas trop le dire, j'ai envie de le ken, tu vois, c'est trop.
Non, mais clairement, elle te désire.
Et du coup, très bien.
Donc, du coup, tu reviens tourner quand?
J'envoie un message. Demain, on tourne la conclusion.
On fait le sequel. En tout cas, merci beaucoup, Alba et Uriel, d'avoir participé à ce remise à mal. C'était vraiment cool de rediscuter du sujet et de voir la distance parcourue, mais aussi d'avoir vos avis qui sont très très différents de ceux que Théo et Juju avaient eu au premier épisode. En tout cas, chers applaudisseurs, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur.
Bisous!
Salut à tous!
C'est l'influenceur.
Non, on dirait.
Tu couperas ça parce que...
Vous l'attendiez, et bien le voici, le bêtisier de l'épisode. Et si vous voulez soutenir Mise à Mal, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, à vous abonner sur votre plateforme de podcast si c'est pas Apple, et à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Merci beaucoup, c'est grâce à ça que le podcast peut se développer.
Ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there. especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Ça, je comprends, mais...
Ah, parce que ça enregistre ?
Oui, non, mais ça, c'est pas gardé.
De toute façon, après... j'imagine, de toute façon, qu'est-ce que tu veux mettre ?
Alors oui, je te donnerai les règles après, mais de toute façon, je diffuse rien.
Alors, donne-les à la fin, ce sera plus drôle. Tout ce que t'as dit avant, t'avais pas le droit de le faire.
On fera notre mise à mal, la chatte d'Alba. Est-elle géniale ? Problématique.
Oui, oui. Mais la chatte d'Alba me donne d'elle 50 centimes. C'est un... la tire
libre. Squirt-tel.
Squirt-tel.
Squirt game.
Yes.
Allez.
Yes.
C'est quoi Squid Game?
Le Squid Game, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a déjà la parodie porno, non?
Bah, j'en ai jamais entendu parler, tant
je me
note.
J'ai pas vu la série, donc je sais pas ce que je pourrais faire en parodie.
Mais... Ouais, je sais ce que je vais faire de ma soirée.
Bah, soit tu squirtes, soit tu meurs, quoi. C'est radical. Génial.
Et moi, j'ai été assez quand même socialisé comme une petite fille.
Tu l'as dit aussi dans le...
J'adore
dans...
quand tu dis ça.
Non, mais c'est pas... C'est, voilà,
t'es tendre, on a envie de te faire un petit câlin.
C'est grave, en fait, j'ai envie de t'aimer encore plus.
Moi, j'aurais été copain avec toi, si on était dans la même classe.
Non, je crois pas.
Pas sûr.
Non, je crois pas.
Je crois vraiment. Et comme tu vois, t'as montré du doigt.
Regardez-le, il est bizarre.
Il est bizarre.
Il est bizarre.
Faut que je m'entraîne à rigoler en dehors.
Oui, comme une autruche qui dort. T'as vu une autruche qui dort? Ça dort comme ça. Ça met ses coups sous
mais
son aile.
Les... Mais en fait, tous les animaux, mais pas les animaux, c'est... tous les oiseaux.
Les deux secondes, on arrive à aller sur un nouveau sujet.
On finit la digression.
Ah oui, non, de base. Mais...
Et tu sais qu'avec Alba, quand on se voit, on a un petit papier où on met un bâton à chaque fois qu'on digresse.
Ouais.
Je repense à une question de technique.
Ouais.
Est-ce qu'on peut couper son micro ?
Non.
Ok.
Mais alors, donc ça m'amène.
Parce que ça l'organise déjà, ça fuit.